nous sommes aujourd'hui, et je vous remercie encore de votre présence, au deuxième moment de cette session, cette première session des ateliers populaires de philosophie. Première session qui porte le titre « Histoire de l'inconscient » et qui comporte quatre moments. Et nous sommes au deuxième de ces quatre moments. Je vous rappelle le but général, hein, qui n'est pas un exposé sur l'inconscient, un de plus, allais-je dire, qui ne serait pas nécessaire, mais un certain point de vue que j'ai voulu adopter, qui est le point de vue suivant. Non seulement l'idée d'inconscient une histoire, comme toutes les idées, et cela est banal, mais encore l'inconscient lui-même a peut-être une histoire, parce que l'inconscient ne relève pas de l'automatisme psychique, mais qu'il est l'expression dans les individus d'une certaine forme de destin des représentations culturelles. Et qu'à ce titre, il y a bien une histoire de l'inconscient, c'est-à-dire que l'inconscient a été impensé avant d'être pensé, et que tout en étant impensé, dans la philosophie grecque, dans la philosophie classique, comme on va le voir plutôt aujourd'hui, eh bien, il ne laissait pas d'informer la pensée. Comme l'inconscient lui-même laisse des traces sur la conscience, de la même manière, l'impensé de l'inconscient laissait des traces sur la philosophie classique. Et c'est à ces traces-là que j'essaie de m'intéresser dans ces quatre sessions. C'est-à-dire, si vous voulez, une préhistoire ou une proto-histoire de l'inconscient, au sens où l'inconscient n'est pas encore écrit. Vous le savez, la préhistoire finit quand l'écriture commence, n'est-ce pas ? Eh bien, je dirais, l'inconscient n'est pas encore écrit, mais il existe déjà. Il existe déjà précisément dans l'impensé des systèmes philosophiques. Alors, il nous faudrait évidemment, non pas 4 heures, mais peut-être 40 heures, et il nous faudrait non pas quelques pages, mais peut-être tout un travail de quelques années pour repérer l'impensé de l'inconscient dans les systèmes philosophiques. Bon, ce n'est pas notre objet, mais cependant, on peut faire quelques remarques à ce propos. Alors, la dernière fois, donc, dans la première séance, nous avons vu que, du point de vue de la définition de l'inconscient, il fallait d'abord distinguer l'inconscient du non-conscient, ensuite distinguer l'inconscient du préconscient, et parvenir à l'idée que peut-être l'inconscient est un ensemble de représentations individuelles, les représentations étant l'ensemble, je dirais pour parler très vite, des idées et des images, et même des sensations, en tant que les sensations sont réfléchies, l'ensemble des idées, des images, des sensations que produit le psychisme, et cet ensemble cohérent de représentations forme une dynamique psychique. Cela, il faut tenir à cette idée parce que c'est l'idée que l'inconscient est producteur, qu'il n'est pas simplement un réceptacle, qu'il n'est pas un lieu mais un acte. Si je peux me faire comprendre ainsi, il n'y a pas de lieu de l'esprit. Nous nous représentons parfois l'esprit comme le contenu du cerveau, tout naïvement, de façon presque enfantine. Et nous disons, dans ce cerveau, qui a une place, eh bien, il y a des lieux. Il y a le lieu pour la conscience, le lieu pour l'inconscient. C'est une représentation tout à fait naïve. Hein. Le cerveau n'est pas un endroit. Le cerveau est une fonction. Hein. Et ainsi, le psychisme n'a pas de lieu à proprement parler. Le psychisme est plutôt de l'ordre de l'acte, de l'activité. Donc, il y a une dynamique propre aux représentations inconscientes. Et dernier élément de la définition, ces représentations ne s'actualisent dans la conscience que par une longue médiation. S'actualiser, voilà bien un vocabulaire philosophique, mais enfin, en l'occurrence, il est bien pratique. Ça veut dire que ce n'est plus en puissance, c'est en acte. On comprend ce que ça veut dire en puissance. Ça veut dire potentiellement. Voilà, potentiellement, tout simplement. Eh bien, ces représentations n'existent plus potentiellement, n'existent plus en puissance, pardon. Elles existent en acte, elles s'actualisent dans la conscience. Eh bien, pour ces représentations-là, cela ne se fait pas tout seul. Cela ne se fait pas facilement. Il y a une longue et difficile, sans doute, médiation qui est nécessaire pour cette actualisation de ces représentations inconscientes. J'ajoute ceci et l'exemple de Platon peut-être nous l'a montré. On pourrait émettre l'hypothèse, et ça sera vraiment une hypothèse fondatrice de la pratique freudienne cette fois, c'est que cette médiation ne peut se faire sans autrui. Ces représentations-là, les représentations inconscientes, je ne peux pas, par mes propres forces, les faire parvenir à ma conscience. Cette médiation nécessaire des représentations inconscientes est en même temps une médiation par autrui, le dialogue avec autrui, donc une forme de dialectique est nécessaire pour ces représentations, c'est-à-dire que tout se passe comme si c'est face à l'autre que cet autre que je suis pouvait véritablement se dire. Hein ? C'est face à l'autre, l'autre réel, même s'il ne dit rien, mais il est là. C'est la présence de l'autre. Même si je ne le vois pas, il est là. C'est face à l'autre, à la présence de l'autre, que cet autre que je suis, parce que l'inconscient, c'est bien moi. On ne va pas poursuivre une représentation archaïque de l'inconscient en pensant que, voilà, c'est un autre en moi-même, un fantôme, un ennemi. Pardon, soyons rationnels. Cet autre, c'est moi. C'est personne d'autre qui rêve. C'est moi. Donc, par exemple, cet autre que je suis ne peut actualiser certaines des représentations qui sont les siennes que par l'intermédiaire d'autrui. Alors, nous avions vu, donc, et je passe là-dessus, deux formes platoniciennes de la possibilité de penser l'inconscient, non pas du tout, j'y insiste, j'y reviens et je le redis, non pas du tout l'inconscient psychique tel que Freud, par exemple, en parlera. On ne va pas le dire, ce serait tout à fait ridicule que Platon a été un précurseur de l'invention de l'inconscient, pas du tout. Mais il y a une forme précisément d'inconscient à deux reprises dans l'œuvre platonicienne, parce qu'il y a une forme de représentation qui sont présentes mais inconscientes dans le sujet et qui peuvent, par une médiation longue et difficile, s'actualiser. Aujourd'hui, que voudrais-je souligner ? Je voudrais m'interroger sur le statut du corps. Le statut du corps dans et pour le sujet psychique. Il me semble que précisément là, il y a une longue histoire du corps dans la philosophie occidentale. Une histoire qui a sa logique et qui a d'ailleurs ses accidents et ses ruptures. Et il me semble que précisément, il y a une histoire de l'inconscient en tant que cette histoire de l'inconscient pourrait être liée avec précisément cette histoire du corps dans la philosophie occidentale. Alors, vous imaginez bien que le propos est déjà tellement vaste que je ne vais pas m'attacher à l'histoire du corps. Elle a été faite, cette histoire du corps, dans la pensée occidentale. Ça doit faire 3 volumes, si vous voulez. Donc, il n'est pas possible pour nous de reprendre, je dirais, pas à pas, hein, ces longs linéaments de cette histoire du corps, mais au moins de poser le problème. Au moins de poser le problème de la représentation du corps et de cette préhistoire de l'inconscient et de la façon dont Freud, dont je vais parler un peu plus cette fois-ci, dont Freud a inscrit sa théorie dans cette histoire du corps, précisément dans la tradition philosophique occidentale, dans la philosophie classique en l'Occident. Je voudrais donc replacer l'enquête sur l'histoire de l'inconscient dans le cadre de ce qu'on appelle généralement le dualisme, la pensée dualiste. Et d'ailleurs, après cette introduction, ce sera mon premier point, j'en ai 3 hein, en tout, ce sera mon premier point, c'est-à-dire de tenter de défricher un peu cette question du dualisme et, dans la philosophie et l'importance qu'elle a peut-être, sans doute, pour la préhistoire de l'inconscient et l'émergence, peu à peu, je dirais, de l'inconscient comme lettre et non pas ou comme texte et non pas comme comme sous-texte ou comme comme parole plus exactement. Alors, premier point, donc, l'histoire de l'inconscient dans le cadre du dualisme. Qu'est-ce que le dualisme tout d'abord? Qu'est-ce qu'on appelle le dualiste? Le dualisme, excusez-moi, et qu'est-ce qu'on appelle une philosophie dualiste? Bon, dans dualisme, on entend évidemment le duel, on entend le dual, c'est-à-dire la dualité. Donc, une pensée dualiste, une philosophie dualiste, est une philosophie que je dirais sans péjoration binaire, et avec un peu de péjoration que je dirais quelque peu manichéenne. De quel duel s'agit-il? De quelle dualité s'agit-il? Alors, il s'agit d'une dualité et d'un duel, en effet, puisqu'il s'agit de l'esprit et du corps, en tant qu'on les considère comme théoriquement distinctes. C'est-à-dire que si l'on se situe, pour enchaîner avec la dernière fois, dans le cadre d'une philosophie platonicienne, on se situe très clairement, et c'est nouveau précisément dans la pensée grecque, dans un univers culturel qui non seulement distingue ce qu'on appelle l'âme et le corps, mais qui encore les oppose. Et singulièrement, on oppose l'âme et le corps en tant que le corps est matériel et mortel, et l'âme est immatériel et immortel. Pour Platon, en effet, l'âme est immortelle, ça ne veut pas dire qu'elle est éternelle. Immortelle, ça veut dire qu'elle va au-delà de la mort. Ce qui est éternel, c'est ce qui n'a ni début ni fin. Ce qui est immortel, c'est ce qui a un début, mais qui n'a pas de fin. Donc, l'âme est bien immortelle et elle est immatérielle. Donc, la philosophie platonicienne se fonde sur une distinction et une opposition, d'une part, entre tout ce qui relève du corps et qui relève de la matérialité et de la mortalité, et ce qui relève de l'esprit ou de l'âme, et qui, alors, âme, hein, psyché, en grec, hein, ça s'écrit psyché, P-S-Y-C-H-E, et donc ça se dit psyché, et cela relève précisément de l'immortalité et de l'immatérialité. Alors, la personne humaine est très clairement désignée par l'esprit, par l'âme. Le corps n'est que le support de cette personnalité. Ce que je suis, et c'est l'enseignement de Socrate et de Platon, ce n'est pas mon corps et ses accidents. On dit accident quand c'est heureux ou malheureux. Hein. Accident n'a pas ici de notion. C'est ce qui arrive, les accidents, tout simplement. Hein. Ce qui me définit, ce n'est pas mon corps et ses accidents, ce qui advient. Ce qui me définit, c'est l'esprit et, je dirais, la pensée, hein, la parole. Ce que je suis, c'est mon esprit. Ainsi, dans plusieurs dialogues de Platon, mais je pense au banquet, par exemple, qui distingue bien entre le lieu du corps et le lieu de l'esprit, eh bien, le personnage de Socrate est justement distingué de ce point de vue-là. Son corps ne relève absolument d'aucune particularité, sauf la laideur et la mortalité. Alors que son âme, elle, au contraire, relève d'une particularité. Il a, dit-on, une âme qui est semblable à ses coffres. Enfin, son âme est semblable aux bijoux que l'on cache dans des coffres qui sont dans une forme de silène, enfin de personnage hideux, alors qu'à l'intérieur, les idées sont si belles, etc. Bon, voilà, hein, c'est la métaphore. Donc, cette pensée dualiste, et en effet, on a eu raison de le dire d'ailleurs, mais ce n'est pas une nouveauté, cette pensée dualiste est consubstantielle, si je peux me permettre cette formule, à la philosophie. C'est-à-dire que c'est précisément un des principes même de la pensée philosophique que de non seulement distinguer théoriquement ce qui relève du corps, accidentel, mortel, inessentiel, et ce qui relève de l'esprit, essentiel, immortel. Non seulement de les distinguer théoriquement, mais de faire la liste, en quelque sorte, de reprendre sans cesse l'idée et le discours de ce qui oppose. Parce que C'est le point que je voulais développer maintenant. Non seulement Platon distingue l'esprit et le corps, mais encore, il remarque qu'ils s'opposent. C'est-à-dire que le corps et l'âme sont dans une relation qui est une relation d'unité, j'y viendrai, mais aussi une relation de combat, une relation agonique. Agonie, agone, en grec, ça veut dire le combat. Hein? D'ailleurs, pour une fois, l'étymologie est ici intéressante, qui nous rappelle que l'agonie, ce qu'on appelle une agonie, n'est pas du tout le moment de la passivité, le moment de l'éteinte de soi, si je peux me permettre. Au contraire, le mot veut dire, agonie veut dire le dernier combat, hein, le dernier cri de la vie, en quelque sorte. Hein. C'est le sens véritable d'agonie. Hein. Donc, il y a ainsi une modalité de relation entre l'âme et le corps qui est dans la vie humaine une modalité d'opposition, une modalité de combat. Donc dualisme veut dire deux choses finalement. Premièrement, la distinction théorique. Deuxièmement, le constat de l'opposition pratique. Et ce sont deux choses différentes. Hein. D'une part, théoriquement, l'âme et le corps se distinguent. Une est une substance matérielle et mortelle, l'autre est une substance, il faut bien dire un mot, une substance immatérielle et immortelle. Et d'autre part, durant l'existence, ces deux substances, ces deux dynamiques sont en opposition. La philosophie et le dualisme ne sont pas indifférents l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le dualisme est une théorie philosophique parmi d'autres. La vérité, c'est qu'il existe quelques philosophes qui ne sont pas dualistes, en effet, qui récusent ce schéma dualiste. Mais ils sont fort peu nombreux dans l'histoire de la philosophie. Ils sont fort peu nombreux. Le plus célèbre et sans doute le plus constant d'entre ces philosophes non dualistes, on parle de philosophes monistes, M-O-N-I, parce que ça vient de mono un seul, n'est-ce pas, hein, et à l'opposé de dualiste. Le plus célèbre de ces philosophes monistes, c'est Baruch Spinoza. Hein, Spinoza, philosophe hollandais du XVIIe siècle, et Spinoza ne conçoit pas la dualité des substances. Pour lui, c'est un principe qui est inadmissible, un principe, une idée de départ, si vous voulez, qui est inadmissible. Il n'y a pas deux substances, il y en a une seule. Et ensuite, tout son système, qu'il explique dans un livre, son livre le plus connu, qui s'appelle Éthique, ensuite, explique-t-il, eh bien, tout son système en découle, en quelque sorte, ce qui lui fait conclure, d'ailleurs, entre autres, à un parallélisme absolu des événements de l'esprit et des événements du corps. Pas un seul événement de l'esprit qui ne soit en même temps un événement du corps. Pas un seul événement du corps qui ne soit en même temps un événement de l'esprit. Et ce parallélisme, ce n'est pas, vous le comprenez, une cause. Ça ne veut pas dire que l'esprit influence le corps et que le corps influence l'esprit. Ça serait une banalité. Ça veut dire que c'est la même chose. C'est-à-dire que le corps et l'esprit ne sont en quelque sorte que la même expression sous des attributs différents, hein, des attributs de Dieu qui sont des attributs différents, l'attribut de l'étendue qui fait que j'ai une étendue, j'ai un corps, je suis même un corps en tant que j'appartiens aux choses qui occupent un espace, et aussi je suis une âme et là je suis immatériel. Il existe d'autres philosophes qui sont non-dualistes et également Nietzsche qui refuse le dualisme comme étant justement porteur de la vieille métaphysique et de la vieille religion qui s'exprime ici, une religion évidemment de la culpabilité, de la haine du corps en quelque sorte. Et donc Nietzsche est un philosophe non pas tellement moniste mais surtout anti-dualiste. Enfin, ils sont quelques-uns. Notre but n'est pas du tout ici d'en faire la liste, mais notre but est de constater que s'ils sont seulement quelques-uns, c'est que le dualisme fait corps, avec un jeu de mots assumé, le dualisme fait corps avec l'histoire de la philosophie. Hein? Il fait corps avec l'histoire de la philosophie, et en particulier, je voudrais m'étendre un petit peu sur l'œuvre, cette fois, d'un philosophe qui est véritablement le symbole même du dualisme, et en France nous le connaissons bien, ce philosophe est René Descartes. Hein? Donc, philosophe français, bien qu'il ait beaucoup vécu dans les Provinces Unies, qui sont maintenant la Hollande, du XVIIe siècle, de la première moitié du XVIIe siècle. Descartes, en effet, non seulement est héritier du dualisme classique, mais il va tenter de l'approfondir, et précisément, on va voir en quel sens il y a peut-être une place pour un inconscient cartésien dans sa pensée du corps, dans sa philosophie du corps et dans sa philosophie du dualisme, sa philosophie dualiste. Pour Descartes, en effet, il y a d'une part le corps et d'autre part, alors il ne parle plus d'âme, lui, il parle bien d'esprit, il parle du sujet. Alors on sait tous, vous savez, que ce qui définit la personne, c'est précisément l'esprit, le « je pense ». Il est anecdotique, mais toujours intéressant de rappeler que le fameux « cogito ergo sum » n'est pas chez Descartes. Enfin, vous ne le lirez nulle part, ces trois mots dans l'œuvre de Descartes, mais c'est un bon résumé, si l'on veut. Enfin, c'est une formule qui résume certaines des formules les plus importantes des méditations métaphysiques, l'œuvre la plus importante de René Descartes, les méditations métaphysiques. Il y a plusieurs formules très proches de cette formule, dont une où il dit « ego cogito ego sum »,« moi je pense, moi je suis ». Donc c'est vraiment très très proche. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est cogito. Je pense. Je sais, je pense. Donc je suis. Je suis bien sûr, parce qu'il faut bien, être pour penser. Or, je pense, donc je suis. Pour penser, il faut être. Or, je pense, donc je suis. Mais je pourrais être une flaque d'eau qui pense. Ce que je pense, écrit Descartes, parce que les méditations métaphysiques sont écrites en latin, dans le latin de l'époque, ce que je pense, c'est res cogitans, je prononce le latin du XVIIe siècle, on dirait maintenant res cogitans, mais enfin bon, au XVIIe siècle, on dit res cogitans, une chose qui pense, et même le latin est très précis ici, et Descartes l'écrit de façon assez précise, res, on traduit par une chose, on devrait traduire par quelque chose, presque aliquid, je suis quelque chose qui pense, quoi ? Je n'en sais rien, et cela est accidentel. Je pourrais ressembler à un arbre, à une fourmi ou à une flaque d'eau. Si je pense, alors tout est dit. Donc, on voit ici que, en quelque sorte, l'identité personnelle est profondément fondée sur un acte, l'acte de penser. Mais alors, maintenant, on dira, qu'est-ce que cet acte ? Qu'est-ce que je pense ? Et c'est là que Descartes est non dogmatique, et c'est sans doute la cause profonde de la pérennité de sa philosophie, c'est qu'il écarte dès lors très largement l'éventail de la signification du « je pense ». On pourrait s'attendre à ce qu'ils nous disent « penser, c'est raisonner, tenir un raisonnement, à la manière des géomètres, à la manière des scientifiques dont il fait le modèle de la rationalité ». Non, il détaille dans une phrase des méditations le « je pense », cette phrase exacte, mais je m'en souviens bien. Et entre autres, il dit que penser, c'est aussi imaginer, c'est aussi rêver. Et même, il finit sa phrase en disant « et sentire ». Et même « et », ça veut dire « et » et, mais il se souvient aussi que ça veut dire « etiam », qui signifie « aussi ». Et donc, on peut traduire par « et aussi », voire « et même ». Sentire, sentir. Donc la définition de cogitare, donc de penser, chez Descartes est très large. Finalement, c'est tout acte de l'esprit, et même cet acte de l'esprit qui accompagne la sensation. Car la sensation brute, elle n'existe pas. Nous l'avons vu un peu la dernière fois. Le corps n'est pas une machine. En même temps que je perçois. Non, Je ne voudrais emmener personne ici dans une réflexion oiseuse. C'est très simple. Si je touche cette table, je touche la table, je sens la table, elle est dure, je la sens, je l'entends même. Il ne faudrait peut-être pas que je la cogne trop. Je touche bien la table, mais en même temps, je sens ma main qui touche la table. La meilleure preuve, si j'ai une coupure au bout du doigt, je sens la coupure. C'est bien la preuve que je sens ma main qui sent la table. Donc la perception est déjà réflexive, donc c'est déjà une forme de pensée. C'est déjà une forme de pensée. Et Descartes ne le nie pas. Descartes ne le nie pas puisqu'il va jusqu'à la perception sensible pour définir la pensée. On voit donc que, ce qui va nous intéresser, c'est le corps. On voit donc que le dualisme cartésien est en effet une distinction théorique de la substance, une distinction substantielle entre l'âme et le corps. Mais, et c'est là où j'insiste un peu, je suis toujours dans mon premier point. Mais ce qui convient, ce qu'il faut pour Descartes, une fois qu'on a dit « je pense, donc je suis », eh bien, après qu'on a dit « je pense », eh bien, il faut bien s'intéresser à qui je suis ou ma façon d'être qui je suis. Or, les seuls êtres donc qui possèdent un esprit pour Descartes, ce sont les humains. Il y a un autre être qui possède un esprit mais qui n'a pas de corps, c'est Dieu. Donc les seuls êtres qui possèdent un esprit et un corps, pour lui, ce sont les humains. Quelle est cette union de l'âme et du corps ? Comment se fait en nous cette rencontre, cette union, qui semble improbable, et qui cependant existe, et qui fait que nous sommes ? Nous sommes, puisque nous sommes res, une chose, un corps, cogitans, qui pense. Comment se fait cette union, alors qu'il y a distinction substantielle, et que Descartes est tout à fait l'héritier de cette idée d'opposition pratique entre l'âme et le corps. L'âme est emprisonnée dans le corps. Hein. Souvenons-nous, là, c'est Nietzsche qui montre cela, le premier, hein, les dernières paroles tout à fait énigmatiques et très ironiques de Socrate. Socrate a bu la ciguë, il s'est allongé, son corps a déjà commencé à se refroidir. Celui qui lui a donné la ciguë est près de lui et commence à lui toucher les jambes et constate qu'elles sont insensibles, qu'elles sont insensibles. Donc Socrate va mourir, ses disciples se pressent autour de lui et un de ses disciples particulièrement apitoyé. Et Socrate, dans un geste de pudeur, a déjà recouvert son visage d'un drap. Donc il va mourir et puis il se découvre une dernière fois et il dit au disciple qui est à côté de lui, « N'oublie pas, nous devons sacrifier un coq à Asclépios. » Asclépios est Esculape. Esculape, ça donnera Esculape. On doit sacrifier un coq à Asclépios. Le disciple s'étonne et lui dit, « Vois Socrate, si tu n'as rien d'autre à dire ?» Il attend une parole sans doute plus historique et Socrate ne dit plus rien et il meurt. Asclépios est le demi-dieu de la médecine, ce sera Esculape. On sacrifie un coq à Asclépios parce qu'à chaque divinité correspond un peu son animal et classiquement c'est un coq pour Asclépios. Or, on sacrifie à Asclépios lorsque l'on est guéri. Ça signifie donc que Socrate est en train de dire « je suis guéri, je suis guéri de la maladie de la vie ». C'est-à-dire que mon corps a fini d'emprisonner mon âme. Mon âme est guérie, mon âme est libre. Hein? C'est ça le cadre du dualisme. Donc vous voyez que c'est un cadre extrêmement puissant, et culturellement extrêmement parlant, et qui définit tellement l'Occident par rapport à des pensées orientales qui précisément sont dans un tout autre rapport, une toute autre définition des rapports de l'âme et du corps. Descartes, lui aussi, donc, comme héritier de ce dualisme fondamental, lui aussi pense cette opposition du corps et de l'âme. Le corps est ce qui me trompe. Pensons au sens, par exemple. Je vois cette tour, elle est ronde de loin, je m'approche, elle est carrée. Je plonge ce bois rectiligne dans l'eau. Je le vois courbe, alors qu'il ne cesse pas d'être rectiligne. Enfin, les sens nous trompent, tel morceau de cire, il est dur, je le goûte, il a un certain goût, une certaine apparence, je l'approche de la flamme, il perd toutes ses apparences, qu'est-ce donc que je percevais si distinctement ? Rien du tout. Donc le corps nous trompe, le corps est une prison, etc. Donc Descartes n'est pas ici relapse de cette tradition. Et cependant, Il faut bien penser quelque chose, et j'y reviens, c'est l'union de l'âme et du corps. C'est-à-dire que nous vivons l'union de ces deux substances distinctes et de ces deux principes opposés. Nous vivons cette union. Et cette union est à ce point intime que précisément nous n'en connaissons pas à chaque moment la cause. Nous sommes les effets de l'union de l'âme et du corps, mais nous sommes dans l'ignorance à chaque moment de la cause de ces phénomènes. Nous voyons bien, par exemple, que nous rougissons par timidité. Donc il y a la timidité, événement psychologique, et il y a le corps qui, tout simplement, a une réaction. Nous voyons bien qu'il y a des correspondances, nous voyons bien qu'il y a des effets de l'un sur l'autre. Mais nous ne voyons pas la cause. Alors, je vais parler ici maintenant non plus des méditations métaphysiques de Descartes, mais d'un autre livre de Descartes qui s'appelle « Les passions de l'âme ». Les passions de l'âme. Vous trouverez également cet ouvrage sous le titre du « Traité des passions ». Le vrai titre, c'était le traité des passions de l'âme, mais enfin bon, on a quelquefois supprimé le traité, je ne m'étends pas là-dessus. Pensons bien à ce que veut dire ce titre déjà. Les passions de l'âme, les passions de l'âme. Alors, passion, il faut ôter de ce terme tout le sens romantique qu'on peut lui accorder et qui est évidemment postérieur à Descartes. Les passions de l'âme, il faut se souvenir du sens étymologique du mot passion, tel qu'on le retrouve dans la Passion du Christ, par exemple, qui veut dire les souffrances. Les souffrances de l'âme, le fait que l'âme pâtit. Hein, patior en latin, ça veut dire supporter, souffrir, d'où impatient. Hein, voilà. Donc, les passions de l'âme, c'est lorsque l'âme souffre. De qui souffre-t-elle ? Du corps. Voilà. Hein, les passions de l'âme est un ouvrage consacré à cette situation où l'âme est passive et le corps actif. La situation normale, la bonne situation, c'est celle où l'esprit est actif et le corps passif. Le corps est un instrument qui obéit, qui doit obéir. Dès lors, je suis dans la situation qui est normale, qui est la norme du genre humain. Cette situation s'appelle la raison. La raison, c'est lorsque c'est l'esprit qui, je dirais, imprime ses décisions, ses volontés au corps, et le corps obéit. Mais il y a une autre situation, une inversion, qui est celle où c'est la situation dans laquelle, pardon, le corps, en quelque sorte, agit sur l'âme. D'où toutes les passions. Alors, passion en un sens ancien, par exemple, la peur est une passion pour Descartes. C'est une passion parce que dans la peur, c'est le corps qui finalement agit sur l'âme. Alors, j'avance, je vais très vite, hein, mais comment le corps peut-il agir sur l'âme ? Alors, c'est là que la médecine cartésienne, Cartésien n'était pas médecin, mais il était passionné par la médecine, et il n'a pas pratiqué la médecine, mais ce qu'il a pratiqué, c'est des dissections qui étaient rigoureusement interdites à l'époque par l'Église, et il les a pratiquées avec un de ses charmantes musiques. Très bon choix de sonnerie, je l'approuve. Mais il a pratiqué la dissection avec un de ses amis qui s'appelait Isaac Beckman et qui était, lui, docteur et qui venait de la faculté, je crois, de médecine de Montpellier. Donc, Descartes a quand même quelques idées et en particulier, par la dissection du cerveau, ils ont découvert ce qu'on appelle maintenant l'hypophyse. À l'intérieur du sang, l'hypophyse, qu'il appelle, lui, il n'a pas de nom, il trouve qu'elle est en forme de pomme de pin, bon, pourquoi pas, enfin bon, il l'appelle pour cela la glande pinéale, elle se trouve dans le cerveau, et il pense qu'elle se trouve au milieu du cerveau. Alors, je ne veux pas choquer l'assistance, mais l'hypophyse n'est pas au milieu du cerveau. Mais vous savez, à cette époque, disséquer un cerveau, c'est très difficile. Parce que si vous trépanez, vous ouvrez le cerveau, il ne reste pas... Enfin bon, je n'entre pas dans les détails. Donc il est quand même assez difficile de localiser. Enfin, l'important n'est pas là. L'important, c'est que l'union de l'âme et du corps se trouve dans cette glande pinéale. Voilà. Il y a des esprits animaux, dit Descartes. Alors, la médecine du XVIIe siècle, vous savez, c'est presque rien. Hein. C'est vraiment l'archéologie d'une science. Donc, des esprits animaux, donc, qui viennent de l'âme. Et puis, il y a des mouvements corporels qui viennent du corps. Et tout cela se retrouve dans ce centre du cerveau. Et la plupart du temps, c'est en quelque sorte les esprits animaux qui imposent, qui s'imposent aux nerfs, hein, aux conduites, voilà, aux nerfs, aux vaisseaux du corps. Mais il y a d'autres moments où c'est le corps qui s'impose à l'âme, etc. Alors, où y a-t-il ici la possibilité d'un inconscient ? Le corps n'est pas l'inconscient pour Descartes. Ce qui est inconscient, c'est précisément cette union de l'âme et du corps. Nous vivons l'union de l'âme et du corps, mais largement, nous la subissons. Je dirais, si vous voulez, et c'est là que je voulais en venir pour ce premier exemple, que cette union de l'âme et du corps, elle est pour nous un pur donné. Elle est donnée. Elle est donnée, mais elle n'est pas déduite, elle n'est pas causée. Elle n'est pas pour nous l'objet d'un choix, d'une volonté. Hein? Donc, nous vivons en permanence une sorte, et je pèse mes mots, même dans le cadre du rationalisme, une sorte de mystère, une sorte d'énigme. L'énigme n'est pas le corps. Le corps, mécaniquement, on peut très bien le désarticuler, enfin l'analyser, le connaître. L'énigme n'est pas l'esprit. L'esprit se connaît assez bien lui-même. Par exemple, dans les sciences abstraites, en logique, en mathématiques, on sait, voilà. Mais ce qui n'est pas connu, c'est l'union de l'âme et du corps. Elle est donnée, elle est constatée, mais elle n'est pas connue. Ce qui fait que, finalement, nous sommes sans cesse renvoyés à quelque chose que nous sommes, et ô combien, l'union de l'âme et du corps, mais que nous ne connaissons pas. Je me connais comme corps, à peu près. Je me connais comme esprit, à peu près. Mais alors, comme union de mon corps et de mon esprit, je ne me connais pas. Voilà. Et pourtant, je le suis. Voilà. Et je sais que je le suis. Donc, je le suis, je sais que je le suis, j'en ai conscience, mais en même temps, j'ignore exactement quelles sont les représentations, quels sont les éléments qui sont ceux de cette union. On peut parler ici véritablement d'une structure inconsciente à l'œuvre, puisque c'est une structure qui définit véritablement ma personne, mais qui ne parvient pas jusqu'à la conscience. Le corps, chez Descartes, reste donc d'une certaine manière, d'une part un instrument, un pur instrument, et d'autre part, l'instance d'une union qui, en quelque sorte, est le texte même, le texte ça veut dire le tissu, une union qui est le texte même de mon existence, mais dont finalement j'ignore la cause et la source. Alors, toujours dans ce premier point, approchons de Freud et approchons peut-être de cette histoire du corps, cette histoire de l'idée du corps, au sens où elle est une préhistoire de l'idée d'inconscient. Freud est dualiste. Freud est dualiste. Il est dualiste tout simplement, non pas, je ne veux pas évoquer la vie de Freud, hein, qui a l'intérêt qu'elle a d'habitude par rapport au système des personnes. C'est-à-dire que pour tous les grands penseurs, et c'est l'œuvre qui explique la vie et non pas la vie qui explique l'œuvre. Donc Freud est dualiste parce que c'est un homme de science. C'est un homme de science. Et particulièrement, c'est un médecin. Il est docteur en médecine, il est neurologue. Et dans cette seconde moitié du 19e siècle, autrichien ou français, puisque Freud s'est formé à la fois en Autriche, en Allemagne et en France, eh bien, pour un médecin, pour un homme de science, un médecin de cette deuxième moitié du 19e siècle, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. C'est-à-dire le cadre, pas seulement intellectuel, je dirais le cadre presque psychique, hein, c'est le cas de le dire, de la pensée, c'est le cadre dualiste. C'est le cadre dualiste. Le corps est, en quelque sorte encore largement pensé comme objet et l'esprit pensé comme sujet. Donc Freud ne remet pas en cause le cadre dualiste hérité de la pensée occidentale. Ce qu'il va opérer, c'est une rupture à l'intérieur du sujet. Ce n'est pas du tout une remise en question de la distinction entre sujet et objet, c'est-à-dire entre l'esprit et le corps. Ce qu'il opère, c'est une rupture à l'intérieur, je dirais, du dynamisme psychique, à l'intérieur de l'esprit, c'est-à-dire une rupture entre conscience et inconscient. Mais Freud reste dualiste, et en particulier, jamais le corps ne sera véritablement dans l'œuvre de Freud. Je ne parle pas des Freudiens, je ne parle pas de Winnicott, par exemple, par la suite. Je parle bien de Freud pour l'instant. Jamais le corps ne sera effectivement un sujet. Le corps n'est pas sujet. Le corps reste objet. Ce qui fait d'ailleurs peut-être une certaine rencontre possible avec autrui, parce que n'oublions pas quelque chose, c'est que lorsque je dis cette chose qui semble monstrueuse à nos esprits modernes, que mon corps est pour moi-même un étranger ou un objet, habituellement, que je le considère beaucoup plus comme un objet, ne dit-on pas, n'est-ce pas, j'ai mal aux pieds? Je ne dis pas j'ai mal à moi-même dans la forme dont mon être pied. On dit bien j'ai mal au pied, c'est-à-dire qu'on objective le pied. Alors qu'en fait, c'est moi qui suis malade, c'est pas mon pied. Mais le pied devient une sorte d'instrument qui dysfonctionne. Voilà, ça dysfonctionne. C'est ainsi d'ailleurs que nous voyons quand on a un problème physique, lorsque nous souffrons, et puis de plus, ça nous agace. Le problème physique est agaçant, parce que c'est une machine qui ne fonctionne plus bien. Et c'est profondément agaçant parce que c'est là qu'on se rend compte que précisément c'est peut-être pas une machine et qu'il y a peut-être autre chose. Donc, bon, nous sommes dans cette situation, je dirais naïvement, d'objectivation du corps. Bon. Mais pour autant, même si le corps, nous allons le voir justement maintenant, va avoir une certaine et même une certaine importance et même une importance certaine, pardon, dans la pensée freudienne. Cependant, le corps reste très largement un objet, c'est-à-dire un principe d'objectivation de l'être. Alors, j'aborde maintenant mon deuxième point, le deuxième point qui est consacré au corps comme signe. Le corps comme signe, S-I-G-N-E évidemment, le corps comme signe, c'est-à-dire l'idée suivante. Dans cette histoire du corps, en tant qu'elle est pour partie une préhistoire et une histoire de l'inconscient, le corps n'est pas rien non plus. Je viens de dire, en forçant le trait, dans le dualisme, le corps est pur objet, puisque c'est l'esprit qui est pur sujet. Ce n'est pas entièrement vrai. Et plus on va aller au-delà de la pensée classique, c'est-à-dire 18e siècle, 19e siècle, avec des penseurs comme Mendebiran, par exemple, comme Ravesson, Félix Ravesson, et puis à la fin du 19e avec Bergson, et puis au 20e avec Merleau-Ponty, plus on va s'apercevoir que cette objectivation du corps a quelque chose de profondément réducteur et d'inexact. Inexact. Et donc, d'une certaine manière, on va désobjectiver le corps, et on va peut-être désenchanter l'esprit, mais on va désobjectiver le corps. Mais nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, le corps n'est pas purement objet parce qu'il est signe. Le corps est signe. Alors, ce que j'ai, je vous le dis tout de suite pour peut-être éclairer un peu les choses, ce que j'ai comme horizon de mon idée, c'est l'idée de symptôme. C'est l'idée de symptôme, c'est-à-dire que le corps est porteur de signes qui sont des symptômes et qui peuvent être des signes, justement, de l'esprit. C'est-à-dire que le corps n'est pas un objet pur, c'est un objet vécu par l'esprit de telle sorte que, à travers le corps, ça parle. Ça parle. Précisément. Ce n'est pas le corps qui parle. Lorsque je rougis par timidité, je prends un exemple à dessein banal, trivial. Lorsque je rougis par timidité, ce n'est pas le corps qui rougit. C'est bien moi qui rougis. Mais ce n'est pas non plus le moi qui rougit. C'est ça. C'est-à-dire le sujet dans sa totalité, dans son dynamisme psychique qui est largement inconscient. Hein ? Et ce n'est pas le corps qui est le sujet, mais le corps est l'expression du sujet. Quand ça parle, en dessous de ce que je pense, alors c'est le corps qui est le langage. Parce que précisément, lorsque je pense, eh bien je parle. Je parle comme ce que je fais en ce moment, comme tout à chacun dans sa vie. Je parle, je dis ce que j'ai à dire. Donc c'est le je qui parle. Mais qui parle lorsque ça parle ? Non pas je, mais ça. Ça n'est plus le je qui peut parler, puisque c'est ça qui parle, et non pas je. Alors c'est le corps qui parle. Le corps dans tous les phénomènes, du plus banal jusqu'au plus complexe, depuis le simple bégaiement de timidité, jusqu'à la grande hystérie, jusqu'à la paralysie totale des membres. Ça, Freud le remarque, c'est un des premiers cas qu'il remarque. Hein, il remarque une malade tout à fait paralysée du bras. Est-ce le bras droit, le bras gauche ? Je ne m'en souviens pas. Enfin, paralysée d'un bras. Elle a un bras replié qui est paralysé. Tous les examens physiologiques possibles montrent qu'il n'y a aucune cause. Mais paralysée au point où si deux hommes forts voulaient déployer ce bras, ils le casseraient. Hein ? Donc voilà. Et c'est un symptôme. Le corps parle de quelque chose. Alors Freud va supposer qu'il y a là que c'est la manifestation d'un trouble psychique et non pas d'un dysfonctionnement qui, etc. Hein, c'est un des premiers exemples. Mais revenons à la théorie. Donc le corps est un signe. Alors ça, la tradition dualiste l'a dit depuis longtemps en faisant un jeu de mots que les Grecs affectionnaient beaucoup et qui est plus qu'un jeu de mots. Le corps en grec se dit soma, S-O-M-A, hein, soma. Vous le retrouvez dans psychosomatique, enfin tout ce qui comporte soma, c'est le corps. Or, un terme très proche en grec a une signification qui n'a pas manqué de frapper les esprits. C'est le terme sema, S-E-M-A, S-E, accent grave, M-A, ou même accent circonflexe, enfin ça, bon. M-A. Et sema veut dire le signe. Le signe est plus exactement encore le tombeau. Donc, soma, sema, les Grecs déjà font le jeu de mots et ils disent, voilà, le corps est un tombeau, c'est le tombeau de l'âme, mais c'est un signe également. Il porte le signe, hein, de la même manière que sur les tombes, il y avait ces portraits en bas-relief ou au relief du mort, eh bien, de la même manière, le corps est comme le signe de l'âme. Et en effet, là où il y a, je dirais, un progrès, une progression, une avancée, à partir de la philosophie classique, oui, et qui va se manifester chez Freud, c'est d'être attentif au corps en tant qu'il porte les signes des événements psychiques dans leur totalité. Il y a d'une part ce que je dis, et d'autre part ce que mon corps dit pour moi, de moi, mais que je ne dis pas. Voilà. Et donc, être attentif au corps, ce n'est plus être attentif au fonctionnement mécanique du corps, comme le pouvaient être encore Descartes et les cartésiens, mais c'est être attentif, non pas au corps lui-même, mais aux signes de l'âme, du psychisme, que porte le corps, dont le corps est témoin, dont le corps est la trace, en quelque sorte. Donc, le corps n'est pas sujet, mais il est signe des événements psychiques du sujet. Se développe donc une symptomatologie, parce que un symptôme, c'est d'abord un signe, donc la symptomatologie, c'est l'étude des signes d'une pathologie. Hein. Il y a pathologie et symptomatologie, ce n'est pas la même chose. Mais le praticien, le médecin, si l'on veut, le praticien, a très, très, très rarement un rapport direct à la pathologie. Son rapport passe par les médiations des symptômes. Et chacun sait que le premier moment de la consultation, c'est le moment où on va, où on tente d'aller depuis des symptômes jusqu'à l'hypothèse d'une ou de plusieurs pathologies. Bon, c'est comme ça que ça se fait. Mais il faut bien qu'il y ait des symptômes. Il faut bien que le corps parle d'une certaine manière. Alors, de temps en temps, ce n'est pas bien difficile. Hein, le nez qui coule, la gorge qui racle. Et puis, de temps à autre, évidemment, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile, évidemment. Hein. Donc, on va du symptôme. Donc, si vous voulez, le corps est symptôme. Et là, ça ne change pas chez Freud. Chez Freud aussi, les symptômes. Mais simplement, il n'est plus symptôme de pathologie, je dirais, mécanique, physiologique. Mais il est symptôme également de pathologie, ça veut dire de souffrance d'abord, de souffrance psychique. Singulièrement de souffrance psychique que Freud distingue dès le début. D'une part, des souffrances psychiques qui ne sont pas destructrices de l'identité et qu'il appelle des névroses. Et d'autre part, des souffrances psychiques qui sont destructrices de l'identité personnelle et qu'il appelle des psychoses. Hein? Donc, la névrose, c'est la souffrance psychique, mais qui ne remet pas en cause l'identité personnelle. C'est-à-dire que je souffre, mais grosso modo, je sais quand même encore qui je suis. On va le dire en termes psychologiques, le moi est affecté, mais n'est pas détruit. Tandis que dans la psychose, le moi est détruit. Le moi est détruit, par exemple, dans cette psychose qu'est la schizophrénie, le moi est détruit dans la mesure où il n'est plus pérenne. Donc, c'est-à-dire qu'il y a multiplication des personnalités, et puis, il y a, bon, etc., etc. Donc, de cela, le corps est le symptôme. C'est-à-dire que Freud reste dualiste, si vous voulez, mais, encore une fois, le corps n'est plus simplement objet, il est un moment du sujet où ça parle. Alors, vous me pardonnerez d'avoir utilisé le « ça » avant d'avoir introduit justement la seconde topique, c'est-à-dire avant d'avoir dit un petit peu ce que Freud appelle le « ça ». C'est dit, hein, « ça hein. ». C'est-à-dire que, encore une fois, hein, le corps ne dit rien par lui-même, mais il est plus qu'un objet. Il est même plus qu'un objet parlant, puisque s'il parle, il est un moment du sujet, mais c'est un moment inconscient du sujet. Le corps comme moment, momentum en latin, ça veut dire mouvement. Hein, le corps comme moment, mouvement, monument, parce que c'est là. Hein, le corps, c'est ce qui fait que c'est là. C'est là. Voilà. C'est-à-dire que, à cause du corps, ou grâce à lui, je ne peux pas être ailleurs. Voilà. Le corps terrasse. Il met sur terre. Donc, en quelque sorte, le corps est le lieu d'être. Nécessaire. Le lieu d'être nécessaire de l'esprit, du psychisme de façon générale. Par exemple, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de réflexions au-delà des recherches à faire sur le lieu d'être du sujet dans le rêve. Hein? C'est-à-dire, le corps demeure dans le rêve, il est encore actif dans le rêve, et mais précisément, c'est tout à fait paradoxal, parce que le rêve est précisément le lieu de l'évasion du sujet, etc. Alors, si on va un peu plus loin, et je guette un petit peu l'heure qui passe, mais il nous reste quand même quelques minutes, facilement, c'est mon troisième point. Le deuxième point, je l'ai écourté un peu. Le troisième point, je ne voudrais pas l'écourter, parce qu'il est plus spécifiquement freudien. Hein, j'aurais fait ce petit détour par Descartes et puis par la question du corps, chez Descartes, et surtout la question de l'union de l'âme et du corps comme structure possible d'un inconscient cartésien, j'aurais fait ce discours pour parvenir au statut du corps dans la première et surtout dans la deuxième topique de Freud. Et je voudrais maintenant m'intéresser en troisième point au « moi » et à l'image du corps. Parce que dans l'histoire de l'inconscient, le corps a une importance en tant qu'il devient structurant du moi par l'image du corps. Alors, j'ai évoqué les topiques. Alors, une topique, c'est une théorie des lieux, topos, lieux, des lieux du psychisme, lieux symboliques, évidemment. Hein, une topique, une structure des lieux du corps. Alors, on part chez Freud de la seconde topique. Il y a une première topique, mais elle est corrigée par la seconde et dernière topique à partir des années 1920 et tout à fait explicite à partir de 22. Cette seconde topique propose trois instances psychiques. Il faut penser cette topique non pas en termes horizontaux, de surface, etc., mais en termes sphériques, et de sphéricité et de concentricité, c'est-à-dire un centre et puis une sphère qui se déploie à partir de ce centre, un petit peu comme un caillou qui tombe dans l'eau. La sphère centrale, c'est le « ça ». C'est-à-dire l'inconscient, ça, CCDIA, égale l'inconscient, ICS. L'inconscient, mais à proprement parler, pour Freud, l'inconscient, ça représente la quasi-totalité des fonctions psychiques. Hein? Le centre, l'essence des fonctions psychiques reste inconsciente. Alors. Et puis, il y a à la surface de cette sphère le moi. Et il y a au-delà de cette sphère le surmoi. Le ça, le moi et le surmoi. Le ça, c'est l'inconscient. Le moi, c'est la conscience. Le surmoi, l'idéologie, l'histoire, la culture, la société, la morale, la religion. Voyez, tout l'appareil extérieur et institutionnel de la culture et des idées. Mais, je vais faire un tout petit chez moi, mais lamentablement simpliste, mais quelquefois un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours, c'est le mouvement qui compte. Mettons que vous avez le ça. Vous avez à la surface du ça le moi. Et vous avez là le surmoi. Mais ce qui compte, c'est ceci et ceci. C'est-à-dire que le moi se retrouve en quelque sorte une surface faible parce qu'il supporte deux forces. Il est le résultat même de deux forces contradictoires. Le ça, le dynamisme inconscient qui pousse, qui veut parler, qui s'exprime. Dès que j'ai les yeux fermés, et je le dis sans histoire, sans jeu de mots, eh bien, le ça, dès que j'ai les yeux fermés, je rêve, et le ça commence à faire sa place. Hein? Et puis, d'autre part, il y a toutes les représentations qui me viennent de la morale, de la société, de l'éducation, des autres, de la culture, de façon générale, de la civilisation. La civilisation, mais on peut traduire aussi par la culture. Kultur, en allemand, c'est la culture et la civilisation. C'est difficile à traduire, parce qu'il y a deux mots pour culture, c'est die Bildung, hein, c'est Bildung, la formation, et Kultur, qui est la culture au sens institutionnel. Et cela me réduit. Donc il y a deux, si vous voulez, deux forces qui font que le moi est en quelque sorte réduit à un statut, j'allais dire, superficiel par rapport aux fonctions psychiques. Voilà cette seconde topique qui commence à s'élaborer. Alors là, c'est vraiment le schéma le plus basique, hein. Il y en a de beaucoup plus complexes. Cette seconde topique qui commence à s'élaborer à partir des années 1920-1922. Or, cette enveloppe psychique, expression est de Freud, cette enveloppe psychique, enveloppe, qu'est le moi, qui enveloppe donc le ça, hein, l'inconscient, cette enveloppe psychique qui, alors, cette enveloppe psychique se constitue par le stade du miroir, hein, ce qui a été beaucoup théorisé par la suite, par Lacan, le stade du miroir, c'est-à-dire qu'il y a un moment où l'être humain, non pas se reconnaître dans un miroir, ce qui est capable, ce dont certains animaux sont capables, mais ne cherche personne d'autre dans le miroir, mais c'est bien que c'est lui. Hein? Le stade du miroir, c'est le stade où je passe par l'image pour savoir qui je suis. C'est-à-dire que le miroir me dit qui je suis, me dit que je suis. Donc le moi se constitue par, en quelque sorte, ce moment spéculaire. Spéculaire, hein, le moment spéculaire, c'est-à-dire ce moment où je me vois, c'est-à-dire le moment où je me reconnais, c'est-à-dire qu'il y a une naissance ici du moi. Hein? Il y a une naissance du moi parce que je m'objective d'abord par cette vision spéculaire de moi-même, cette vision spéculaire, enfin, ce moment spéculaire où je me perçois. C'est la naissance du moi comme la naissance étant la naissance du corps personnel, le corps propre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a d'une part autrui qui a un corps, et d'autre part il y a mon corps que je suis, hein, que je suis, du verbe être. Or, et c'est là que nous venons à ce que nous voulons dire, le moi se constitue donc, et Freud y insiste, dans tous ses écrits, après cette topique, le moi se constitue par l'image du corps. Ce n'est pas le corps qui fait le moi, mais c'est l'image du corps qui fait le moi. C'est-à-dire que la vie psychique construit une image du corps qui est constitutive du moi. Donc, il y a d'une part le ça, qui n'est pas le corps et qui est le dynamisme psychique, il y a d'autre part la conscience qui est l'image du corps, la représentation de l'image du corps, qui est fondatrice en quelque sorte du moi, et puis il y a le surmoi qui, par ailleurs, évidemment, me fournit des représentations des corps qui sont là autant de modèles, en quelque sorte, par lesquels, grâce auxquels et à cause desquels je me définis. Donc, le corps est devenu, en quelque sorte, non pas l'ennemi du sujet, mais le double spéculaire du sujet, par lequel le sujet se constitue dans sa résistance au ça. Je me répète peut-être, hein. Bon, alors, mais c'est simple, comme quelquefois en philosophie, ça a l'air compliqué, mais en fait, ça ne l'est pas. Le corps, nous l'avons vu, c'était le contraire du sujet. C'était l'objet dans la pensée classique, c'était le non-moi, hein, d'une certaine manière. Ce que je ne suis pas, puisque je pense donc je suis. Donc le corps, c'est ce que je ne suis pas. Hein? Alors le corps est un pur mécanisme, etc. Bon, on vient de là. Freud est encore dualiste. Mais c'est un dualiste qui ne se satisfait pas entièrement du corps-objet, du corps comme pur objet. Le corps devient un signe, c'est-à-dire qu'il parle en quelque sorte. Alors comment cette spiritualisation du corps ou cette psychisation du corps est-elle possible? Elle est possible par l'intermédiaire de l'image du corps. C'est-à-dire, ce n'est pas le corps qui compte. Le corps ne compte pas plus qu'avant. Mais ce qui compte, c'est l'image du corps en tant qu'elle est constitutive du moi. Je me constitue consciemment par une image du corps que je pose comme étant adéquate à ma subjectivité. Voilà. Il y a donc un couple, moi et mon corps, c'est-à-dire le moi et l'image du corps qu'il pose en face de lui pour s'identifier. Alors, évidemment, avec difficulté, tout le monde s'identifie avec difficulté à son corps, bien entendu, parce qu'il y a le surmoi au-dessus, qui fait qu'il n'est jamais facile de s'identifier à son corps. Mais ce n'est pas que j'aime pas mon corps. C'est que si j'avais eu à choisir entre les différentes représentations du corps que le surmoi me propose, eh ben, c'est peut-être pas celui que j'aurais choisi. Voilà. Hein? Oui, alors, j'entends effectivement moi-même, je ne suis pas innocent là-dessus, je dis ça avec légèreté. Pensons à des situations existentielles qui ne sont pas légères. Hein? Où le corps n'est pas choisi non plus. Voilà. Donc, bon. Mais, bon, il y a ça. Alors, et ça, c'est le moi. Moi égale image du corps. Image du corps égale moi, même si cette image du corps est plus ou moins bien acceptée, mais enfin, elle est posée là. Hein? La manière dont je pense que je suis là, c'est l'image de mon corps. C'est pas mon corps, c'est l'image de mon corps. Hein? Bon, ça, c'est le moi. Donc, on voit que le moi récupère le corps par l'intermédiaire de l'image du corps. Et finalement, le corps devient un des principes de la subjectivité personnelle. Donc, comme l'image du corps égale le moi, est l'enveloppe psychique, et comme l'inconscient pousse, alors le corps parle. Voilà. Hein? Le corps parle. C'est-à-dire que précisément dans cette situation, puisqu'il y a cette force, je me suis toujours trompé, centrifuge, c'est ça, hein? Cette force centrifuge de l'inconscient et cette force centripète du surmoi, et comme le moi est là au milieu, hein, comme une sorte de monade leibnizienne, je ferme la parenthèse, comme le moi est ici au milieu, et que le moi égale le stade du miroir égale l'image du corps, pour parler très vite tout ça, hein, c'est plus complexe, eh bien, il est normal que ça parle par le corps, puisque le corps me sert de principe spéculaire d'identification du sujet. Voilà. Donc, quand ça parle, eh bien, j'allais dire, c'est le corps qui parle, mais ce n'est pas lui qui parle. C'est lui en tant qu'il est le moment spéculaire de mon identité. Vous comprenez ? Hein ? Alors, il se trouve que j'ai été... je vous demande encore juste 5 minutes, mais j'ai été un peu trop... Enfin, trop vite. J'ai été vite aujourd'hui, ou alors je n'avais pas prévu à cette chose. Mais pourtant, si, j'avais prévu des choses. Mais... Si, oui. Dans cette histoire de l'inconscient, on voit que l'inconscient sortira de son impensé à partir du moment où le moi va saisir son idéalité. Je m'explique. Le moi, c'est un idéal, dit Freud. L'idée du moi est un idéal. Alors, idée idéale. Quelle est la différence entre une idée et un idéal ? D'abord, un idéal est une idée. Donc, l'idéal appartient aux idées. Hein, il y a un grand ensemble, l'ensemble des idées, et à l'intérieur des idées, certaines idées sont des idéaux. Alors, un idéal est une idée. Mais une idée n'est pas nécessairement une valeur. Par exemple, l'idée du triangle n'est pas une valeur. Mais l'idée de liberté est une valeur. Alors, pourtant, ce sont des idées. Alors, quelle est la différence entre l'idée du triangle et l'idée de liberté? Ou l'idée de Dieu, si vous préférez. Eh bien, l'idée du triangle ne supporte absolument aucune charge affective. Je ne crois pas dans le triangle, à peu près. Hein, il est rare, que le triangle soit le support d'une charge affective. En revanche, la liberté, oui, ou Dieu, hein, la liberté, ou la révolution. La révolution est une valeur. Hein. C'est-à-dire qu'un idéal est une idée en laquelle je crois. Voilà. Hein. C'est-à-dire que j'ajoute, en quelque sorte, cette charge affective. Cette idée devient pour moi une valeur. Elle est donc un idéal. Par exemple, la paix. Enfin, on pourrait ajouter des idéaux. Alors, le moi. Le moi est en même temps une idée. Il est une idée dans la philosophie cartésienne. Il est une idée dans toute la métaphysique, jusqu'à Kant, et Kant, le philosophe, donc Emmanuel Kant, hein, philosophe de la fin du XVIIIe siècle, un philosophe allemand de la fin du XVIIIe siècle, Emmanuel Kant, K-A-N-T, est un des philosophes des Lumières. Hein, il est allemand, mais c'est un philosophe des Lumières. Eh bien, mais je l'ai déjà évoqué la dernière fois. Emmanuel Kant parle du moi, il appelle ceci l'apostrophe à perception transcendantale, c'est le sujet, mais peu importe. C'est sans doute le moment où le moi est le plus idéalisé, en quelque sorte. Et puis, il est vrai que, à la fin du XIXe siècle, trois penseurs, Nathalie Sarraute a pu les appeler les maîtres du soupçon, parce qu'ils jettent le soupçon sur le moi. Non pas qu'ils ne croient plus dans le moi, ces trois penseurs, mais ils montrent que le moi est bien plus un idéal qu'une idée. Que le moi est construit comme idéal, et non pas véritablement comme une idée qu'on pourrait dire objective. Ces trois penseurs sont Marx, Nietzsche et Freud. Ils n'ont rien de commun entre eux, rien. Strictement rien. Hein, tout à fait. Mais ils ont de commun entre eux d'avoir dénoncé l'idéalisme du moi. Voilà. L'idéalisme du moi. C'est-à-dire que, précisément, d'avoir dénoncé cet aspect idéal du moi, c'est-à-dire que le moi était tenu à bout de bras par la métaphysique occidentale pour, en quelque sorte, tenter de cacher autre chose. De cacher quoi pour Marx ? De cacher les classes sociales qui, elles, font l'histoire, et pas les individus. De cacher pour Nietzsche la volonté. Hein, la volonté de puissance qui s'exprime partout et qui est à l'origine du moi. Et Freud, pour Freud, le moi, c'est l'enveloppe psychique et en même temps le masque du ça. Le moi cache le ça. Il le cache, mais comme il ne peut pas complètement le cacher, de temps en temps il révèle. Mais qui révèle le ça, c'est plutôt le corps. Hein. Donc le corps est ici. Dans cette histoire du corps, il y a comme une préhistoire de l'inconscient, parce que c'est à partir de cette dénonciation de l'idéalité du moi que Freud va pouvoir construire une subjectivité de l'inconscient, c'est-à-dire montrer que l'inconscient est notre vrai sujet, ce qui pense en moi, ce qui représente en moi, ce qui est à la source de mes représentations, c'est l'inconscient. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Ça veut dire que la conscience est une perpétuelle correction des représentations inconscientes. Une correction. Hein, par mouvement de sublimation, de déplacement, etc. Et l'analyse, ça consiste à partir de ce qui est dit consciemment pour essayer de voir quelles sont les représentations inconscientes derrière tout cela. Donc, et pour en finir, pour aujourd'hui, avant le débat, Ce que je tentais de montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a dans cette préhistoire de l'inconscient, dans cette histoire de l'inconscient comme un penser qui va se penser à un certain moment, il y a une certaine part de l'histoire du corps en tant que le corps s'objective et ne se désobjective pas, mais d'une certaine manière se symbolise dans son rapport au moi idéal. Je vous remercie. Thank you.